Bérangère Maximin est une artiste comme il est trop rare d'en trouver. Tant à l'aise en live qu'en studio, liant la pop à la musique électroacoustique sans complexe, elle définit son travail comme du « laptop arts ». Et elle est notre invitée dans Contrebande.
Bonjour.
Contrebande. Sullivan Clabot. Nova.
Vous avez sorti 5 albums sur 4 labels différents. D'abord Tzadik, Sub Rosa, Cram Disc et le dernier en date Frozen Refrains en 2017 chez Atlas Réalisation. Vous êtes né à La Réunion mais avez passé une grande partie de votre vie à Paris. Vous sortez votre 4e album en 2015, Dangerous Orbits, sur le label Cram Disc. Et nous allons tout de suite écouter un extrait de Crax.
Cette pièce-là, Crax, la pièce d'ouverture donc, bah c'est elle en fait qui a déclenché un peu tout ce qui a suivi toutes les pièces, qui a donné un peu le ton, la texture, l'atmosphère. L'album sur Sub Rosa, infinidécimal, partait justement sur des choses infiniment petites. Et là en fait, Dangerous Orbits, qui a fait suite à infinidécimal, est le pendant en fait macroscopique de cet album-là. C'est-à-dire que les deux sont liés, c'est les mêmes textures, mais j'ai essayé en fait d'imaginer comme si j'étais un réalisateur de film et que je changeais d'angle, en fait. Donc, de l'infiniment petit, du très, très zoomé. Je me suis imaginé un peu plutôt comme si j'étais dans un satellite, en fait, autour de la Terre et que je voyais les choses en très grand.
Contrebande, c'est un invité par émission et un dispositif très particulier. Devant chaque invité, il y a une tablette avec différents boutons de couleur. Chaque bouton correspond à un son qui sera déclenché par l'invité et ces sons formeront la trame de notre entretien. Bérangère, est-ce que vous voulez bien lancer cette émission ?
Avec plaisir.
5,90 et 6.
Ça, c'est le marché en anneaux, là où j'habitais avant, en 18e. C'est là où, quand j'entendais ce son-là en me réveillant le matin, je me sentais chez moi, en fait. J'aimais bien entendre ça de loin, j'habite au dernier étage. Et ça évoque, la maison, le cocon, là où je travaille, là où je vis. Et je sais pas, ça m'émeut beaucoup, par exemple, ce genre de son, parce que tout de suite, ça me ramène à ces moments-là. Ça faisait partie de mon rythme de travail, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'ils étaient là, moi, je ne pouvais pas vraiment travailler. Donc du coup, je les écoutais. En fait, je préparais des sons, par exemple. Je ne pouvais pas enregistrer, évidemment. Et je ne pouvais pas vraiment composer non plus, parce qu'en fait, l'isolation chez moi était un peu vieille. Donc du coup, je les entendais très fort. Je préparais des sons, je les coupais, je les nettoyais un peu. En fait, ça me permettait d'avoir une sorte de vision détachée. Mais ce qui était bien, au bout d'un certain temps, ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis habituée. Et en fait, ça m'a permis d'écouter ma musique en fait, dans un autre point de vue, comme si c'était dans un contexte particulier. J'avais l'impression que les gens étaient là. Et c'est pour ça aussi que ça m'émeut beaucoup, ces sons de marché avec les vendeurs en fait, qui crient comme ça, qui harangue les gens.
Et est-ce que ça vous est arrivé d'enregistrer des sons du marché et les intégrer dans vos compositions ?
Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Mais ce qui est curieux, c'est qu'autant parfois certains sons deviennent tellement abstraits que je ne me souviens plus de la source, je ne me souviens plus du contexte dans lequel je les ai enregistrés. Je ne sais plus pourquoi je les ai choisis d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, il y a comme des couches d'intention, d'interprétation qui se font au fur et à mesure de la composition. Donc du coup, j'oublie un petit peu l'idée de base, parce que je grève petit à petit plusieurs des symboles et des significations. Et là, en fait, ces sons de marché-là, je m'en rappelle toujours. C'est assez rigolo.
Un autre son, peut-être ?
Oui. Girl, I want to be with you all of the time. Superbe, les Kings, j'adore. C'est l'adolescence pour moi. C'est le moment où je me détache un peu de mes parents et de la cellule familiale pour aller avec les copains, voir des concerts, d'autres copains qui jouent et qui font des reprises de musique 60s, particulièrement la musique rhythm and blues anglaise. C'était à Perpignan, j'étais Mots. C'était très frais, très spontané, je me rappelle de ça comme le début de tout en fait.
Le début d'une carrière avec des liens forts entre la pop et la musique électroacoustique.
Alors plus que de dire que c'est un lien avec la pop et la musique expérimentale, pour moi c'est plutôt le début d'une relation avec le son. C'est-à-dire non seulement en fait la composition et l'interprétation, mais aussi le rapport avec le public qui est au moment de l'adolescence quand même très fort, on est très passionné, on est obsédé même. Et en fait c'est ça que j'essayais de garder tout au long de ma démarche. Et c'est très très fort parce qu'au départ j'étais assez solitaire. Et je le suis aussi souvent, hein, c'est un peu comme l'écrivain qui passe du temps tout seul à écrire, on a besoin de cette solitude-là. Mais c'est un moment où on est totalement obsédé, on est à 100%, on déteste quelque chose mais complètement, on adore quelque chose complètement aussi. Donc à chaque fois que j'entends les Kings, surtout dans les cafés, ou quand on va dans les pubs à Londres, il passe encore énormément de pop, de garage des années 60, et je me sens... Enfin, ça me fait revivre, en fait. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais, hein. Mais c'est lié à ma biographie, à mon autobiographie, à ma vie, en fait. C'est complètement... Ça prend un sens. C'est vraiment la source, quoi, le début de ce rapport-là très passionné avec le son.
Si on considère que ce qui nous atteint par l'un de nos sens, qu'il y en ait 5, 6 ou 7, hein, peu importe, mais si on considère que c'est perçu... intérieurement, de diverses façons, par les personnes, par chacun d'entre nous, selon nos cultures, nos histoires personnelles, nos blocages, nos ouvertures, nos facultés d'imagination ou autres. Alors, moi je pense que la meilleure façon de communiquer avec nos semblables, bah, c'est de leur proposer des directions tellement variées que chacun peut s'y frayer un chemin, son propre chemin.
Denis Dufour, c'est mon professeur au conservatoire, en classe d'électroacoustique. C'est lui qui m'a tout appris, la façon d'écouter, d'enregistrer, de monter. Et surtout, le plus important, c'est la façon de penser la musique, de penser le projet et de penser le son.
Comment on pense un projet, comment on pense un son dans une musique expérimentale comme la vôtre ?
Mais en fait, on part de tout. On aime bien partir d'éléments purement littéraires, historiques, scientifiques. Mais pour arriver au bout de notre sujet, il faut qu'on rajoute quelque chose qu'on ressent très fort, quoi. Il faut qu'on rajoute de l'émotion. Il faut qu'on ait envie de dire des choses aux gens auxquels on s'adresse. On ne fait pas de musique pour les astres ou pour les planètes, on fait une musique pour les humains. Et le fait d'avoir conscience de ça dès le départ, bah, ça fait respirer la musique aussi. On pourrait qualifier la musique acousmatique de conceptuelle, mais pour moi, elle est très, au contraire, elle est très en rapport avec le physique, avec le corps. Et plus tôt on en a conscience dans la composition, et plus effectif c'est, en fait. Après, on peut continuer de travailler, ça respire, tout prend en fait ce pli-là, tout prend cette couleur-là. Après, on peut se permettre de rajouter justement des intentions. Et ça, en fait, Denis Dufour, au fur et à mesure, nous fait comprendre ça, en fait, par rapport à l'histoire de la musique concrète et de l'acousmatique, mais aussi par rapport à sa propre expérience de compositeur. C'est pas si académique que ça, c'est même pas académique du tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans une espèce de façon de penser ou d'intellectualiser la musique. Au contraire, on est très dans le physique. Et bon, les professeurs ont chacun leur sensibilité, et lui, il a celle-là, et moi, je trouve que c'est la meilleure. C'est la meilleure façon d'enseigner, c'est-à-dire que les gens après lient facilement en fait la musique et la vie. Et du coup, l'un inspire l'autre. Et je trouve que c'est un excellent moyen d'épanouissement en fait.
Un autre son ?
Le prochain.
C'est le froid, l'hiver. Et le temps là-bas, c'est tout.
Vous reconnaissez ?
Pas du tout.
Christophe Carole.
Ah.
У меня в моем паспорте
виза. Oui, mais alors là, je vois pas du tout de quelle pièce.
Которая мне.
C'est tiré.
Разрешает пребывать на территории Франции.
C'est la danse de la parole.
Виза визитер называется. Что это такое значит? Это значит, что я просто пришелец во Франции. Je suis rare person qui donne l'état français.
Qui est Christophe Carole pour vous?
Ça fait partie du premier groupe de compositeurs professionnels que Denis a fait venir au Conservatoire Perpignan, justement, en masterclass. Donc, j'ai eu le plaisir de les avoir deux ou trois jours. Enfin, on a eu le plaisir de les avoir deux ou trois jours à la classe. On a pu discuter de manière totalement détendue de leur carrière, de ce qu'ils nous ont conseillé de faire et de ne pas faire. Ce qui est assez curieux parce que ils sont politiquement très engagés. Ce qui est assez rare hein, dans la musique acousmatique, enfin on l'est au niveau personnel évidemment, mais ils ont des choix esthétiques très, très particuliers, très ciblés. En général, c'est vraiment pour montrer une certaine vision de la société. Après, en tant que spectatrice, ce que je trouve bluffant, c'est qu'ils arrivent à faire des sons en direct, dans le sens manipuler les sons en fait, en direct, en concert, pour ensuite les mixer tout ça en direct. C'est super précis. C'est très beau, c'est très bien construit, c'est super riche et en même temps, visuellement aussi, ça apporte quelque chose. Moi, je trouve ça... Enfin, c'est très rare en général. On en voit les instrumentistes le faire. Par exemple, le guitariste qui joue sur ses cordes et qui les transforme en direct ou alors le pianiste. Et là, en fait, ce sont des objets, des sacs en plastique, des bouteilles, divers objets comme ça qu'on connaît très bien. Et ensuite, enfin, qui manipulent en direct. Et ça sonne très très bien, quoi. Ça ne sature pas. C'est toujours très bien calibré, c'est toujours très généreux et très bien construit. Moi, je suis assez admirative de leur travail.
Un autre son ? On écoute.
Wax Melody. De mon dernier album en date, Frozen Refrains 2017.
Aspect très liquide dans ce morceau, non ?
Oui, oui. J'ai fini par y arriver. C'est une pièce que j'ai retravaillée énormément. C'est simplement que j'avais envie, en fait, d'une souplesse et en même temps d'une certaine raideur, ce qui est assez difficile à obtenir, en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de façonner une mélodie en la laissant faire aussi, c'est-à-dire que je ne voulais pas plier absolument tous les paramètres à cette contrainte-là de la mélodie. Donc du coup, ça a créé des distorsions, des fêlures, des choses, en fait, et j'avais pas envie de colmater trop les trous qu'il y avait, etc., pour faire une matière, en fait. Donc du coup, je reprenais tout à zéro et j'essayais de repartir avec plusieurs séquences que je tressais, en fait, plus ou moins, en essayant de faire ressortir cette mélodie-là, mais tout en laissant aussi paraître les autres sons, en fait. par l'espèce d'impression d'eau, ça a donné bah, tout simplement cette espèce de patine-là et ça m'a permis de pouvoir construire dessus. Et après, une fois que le principe a été fait, c'était la construction, c'était le départ en fait. Comment poser les premières séquences, comment poser le son de manière à faire comprendre clairement ce qui allait se passer.
Godard, deuxième. Le son était mauvais la première fois, c'est la télé.
On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, bon ben on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, bon ben on va le faire. Et ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis.
Tout est permis de toute façon en général. On a cette impression-là que grâce justement à ce genre de grands artistes, nous on a la liberté de faire un peu ce qu'on veut. Comme je disais une fois à Denis Dufour, mon professeur, ce que vous avez eu en montage, nous on l'a en mixage. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire des couches de référence en même temps en fait. On a une liberté en fait qui est beaucoup plus grande probablement qu'au XXe siècle. On fait à la fois le scénario, on dirige le tournage, on fait ensuite le montage, la post-production, on fait tout nous-mêmes. Dans ce sens-là, oui. Qu'on n'a pas de compte à rendre, qu'on assume des choix esthétiques assez radicaux quand on pense que c'est justifié.
Christian Zanesi. Avec Fénès.
Et Mika Vaigno, non?
In den westlichen Hauptstädten wurde diese Nachricht mit Erleichterung aufgenommen. US-Präsident Bush lobte die Militäraktion. Der britische Premierminister Tony Blair sprach von einem großen Tag für den Irak.
Frankreich sprach sich dabei direkt für einen Bombenangriff aus. Die Vereinten Nationen sagte der französische Botschafter der Gendarmerie. Washington hat die Zeit, neue Positionen zu erkennen. Der französische Verteidigungsminister hatte von zwei Zuhörern mehrere Staaten, darunter Frankreich, Deutschland, auch in den vergangenen Tagen noch einmal begriffen, dass sie ohne entsprechende UN-Mandats keine Truppen in den Irak entsenden werden.
C'est des gens que j'aime beaucoup, Christian Zanesi et Christian Fénès. Et Mika Vaigno, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais je suis très admirative de Pensonic. Ça a été une très grande inspiration pour moi. Je les ai vus en concert, j'ai plusieurs albums. C'est phénoménal. J'aime beaucoup parce qu'ils arrivent à lier la noise à quelque chose de beaucoup plus optimiste. Moi, je maintiens, j'ai eu des discussions avec des collègues artistes. Moi, je trouve Pensonic foncièrement optimiste comme musique. Christian Fénès aussi, c'est la sensualité, c'est la générosité. en concert autant que dans les albums, en fait. C'est aussi une simplicité parce qu'il a toujours un peu le même type de texture. C'est le genre de musique dans lequel je me plonge. Je peux me laisser bercer pendant des heures sur cette musique-là. Ça pourrait être ma musique d'environnement à moi, en fait, chez moi. Isanesi, c'est en plus d'être le directeur du GRM pendant longtemps, et il m'a soutenu, c'était l'un des premiers qui m'a soutenu dans ma carrière, et aussi quelqu'un d'humainement très, très chaleureux, et quelqu'un d'assez sensible aussi, ce qui n'est pas forcément une caractéristique très répandue chez les directeurs de structure, qui sont toujours affairés, toujours à s'occuper d'administratif, beaucoup plus d'artistique aussi, alors que dès ma première rencontre avec Isanesi, j'ai senti que je parlais à un artiste. Et les trois ensemble, c'est dommage qu'il n'y en ait eu qu'un, il n'y a eu qu'une seule fois, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. En plus, si je me rappelle bien, ça a été enregistré en 2000 ou 2002. Donc c'était au tout début un peu de cette démarche qu'a eu le GRM d'ouvrir la porte aux musiques électroniques, aux live electronics. Et en fait, c'est les parfaits ambassadeurs pour ça, je trouve.
On se quitte avec Pierre-Henri.
C'est le fondateur. J'ai énormément d'admiration, de respect. Il m'a inspiré à différents niveaux. Le fait de ne pas être complexé, de pas se sentir enfermé dans un rôle ou dans une fratrie ou dans une chapelle, c'est le fait d'être guidé par l'inspiration. De travailler avec des chorégraphes, de travailler avec des gens qui font d'autres musiques, du jazz, du rock. C'est une énorme curiosité et en même temps une exigence. Et moi, au niveau personnel, une méthode aussi parce que moi-même j'utilise les collections de sons en fait. C'est-à-dire que je ne réenregistre pas avant chaque projet, mais j'enregistre régulièrement et j'entrepose, j'archive en donnant des titres. Et en les plaçant dans des catégories un peu de façon similaire à la sienne, en fait. C'est des choses très, très cadrées, très dirigées et très précises. J'aime bien ça, et méticuleuse.
Merci beaucoup, Bérangère Maximin, d'être venue dans Contrebande.
Merci de m'avoir invité.
Avec quel morceau vous voulez qu'on se quitte ?
Pourquoi pas la dernière pièce de Frozen Refrains qui s'intitule Elpis.
Thank you.